الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nous allons avec ce cours nous préoccuper aujourd'hui du jeûne du mois du Ramadan, شهر رمضان, avec également tout ce qui concerne les éléments de du droit et de la jurisprudence concernant l'application de ce jeûne. En introduction, il faut mettre en évidence le caractère très particulier de la période du mois du Ramadan, tant il est vrai que certains musulmans et certaines musulmanes ne retiennent de ce jeûne que le fait qu'il faut se prémunir de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles pendant la journée, alors que tout le sens de ce mois très particulier, où tout ce qui va concerner la rupture, tout ce qui va concerner le fait de s'éloigner des choses qui sont finalement très habituelles, doit avoir comme conséquence une revitalisation, une revivification de toute la dimension spirituelle de la vie de la croyante et du croyant. Nous savons, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, et nous rappelle le sens fondamental de ce que c'est que le jeûne, quand il nous dit dans Surat al-Baqarah, « بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. » Ce qui nous dit, c'est ô vous qui portez la foi, le jeûne vous est prescrit, le jeûne du Ramadan donc vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Peut-être atteindrez-vous la crainte révérentielle. Première chose qu'il faut remarquer dans la prescription du jeûne, c'est qu'immédiatement Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que cette prescription nous marque, nous inscrit, musulmans, dans la dimension de toutes les spiritualités et de toutes les révélations qui nous ont précédées, de Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad ibn Abdullah sallallahu rabbi alayhi wa sallam. Et donc cette dimension de l'inscription de notre spiritualité dans toutes celles qui ont précédé, avec cette pratique particulière, le fait de se retenir de manger, de se retenir de boire et de vivre pendant un moment de sa vie, un moment de l'année, dans une situation de rupture avec les habitudes qui endorment, avec la répétition qui finalement émousse et a un effet soporifique sur la conscience. Donc, ce que nous retiendrons, c'est que dans cette prescription particulière, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous replace dans le cycle des prophéties pour nous dire qu'il y a un secret dans ce jeûne. Et ce secret, il est ce qui a été le secret de tous ceux qui veulent vivre avec leur cœur, qui veulent vivre avec leur esprit, qui veulent approfondir leur spiritualité, qui veulent se rapprocher de Dieu. Et se rapprocher de Dieu nécessite que une conscience se réveille, alors que tout dans l'habitude pourrait l'endormir. Et ce jeûne est effectivement cette dimension-là. Donc il faut bien le comprendre comme un moment de rupture qui réveille et non pas simplement de privation qui gêne. Et c'est là peut-être qu'il faut réveiller la conscience spirituelle des croyantes et des croyants. Ici en particulier, nous avons une vraie conscience à développer, une vraie spiritualité à intensifier. Mais il n'est pas dit cela simplement, parce que il nous est dit également que le moi lui-même a un lien très très particulier avec la révélation. Plus loin dans la même sourate, dans le même chapitre, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ce mois du Ramadan dans lequel est descendu le Coran, qui est une guidance pour les gens, est l'expression, l'évidence de la guidance et du discernement. Que nous est-il dit ici? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: c'est pendant ce mois, effectivement pendant ce mois, qu'il nous est dit dans, en plus, Laylatul Qadr, Laylatul Qadr, qui est la nuit du destin, met en évidence une chose, c'est que du ciel le plus élevé jusqu'au ciel le plus bas, le Coran a été dans un premier temps révélé. Lawh al-Mahfouz et la Bayt al-Izza, c'est cette première révélation qui s'est faite pendant Ramadan. Et de la même façon, par la suite, le début du cycle des 23 années de la révélation s'est faite dans ce moment-là. Et pour nous, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ce mois, il est le mois de la rupture et le mois du rapprochement. La rupture de l'habitude, mais le rapprochement de la méditation sur ce mois, شهر رمضان هو شهر القرآن. C'est-à-dire que ce mois, il est le mois de la révélation. Il y a quelque chose de particulier dans ce mois sur le plan spirituel. Et le prophète alayhi salam avait dit: Futihat abwabul jannah. Les portes du paradis sont ouvertes pendant ce mois. Wa ghulliqat abwabun nar. Et les portes de l'enfer se sont fermées. Alors sur le plan de notre spiritualité, c'est le mois de toutes les bénédictions, le mois de toute la spiritualité, de l'intensité. Donc, plus simplement que le fait de se priver de boire et de manger, le mois du Ramadan doit être dans la conscience du croyant, dans la conscience de la croyante, le mois de la rupture de l'habitude, du changement dans la spiritualité qui a pu s'endormir pendant l'année pour la réveiller. Et la réveiller comment ? La réveiller bien entendu en ne faisant plus ce qui est devenu tellement naturel qu'on en a perdu la conscience, boire, manger et en même temps pouvoir vivre une vie corporelle, physique, qui ne se rend plus compte d'elle-même tellement elle a l'habitude d'être et de se vivre. Et dans cette perspective aussi, un rapprochement avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala, ce que Dieu nous a donné de plus précieux finalement, une lumière, un chemin, une guidance sur le chemin. Et c'est cette révélation dont il faut se rapprocher pour réveiller le cœur, pour lui redonner vie, pour la spiritualité fondamentale qui est de la nôtre, pour que nous soyons, en tant que musulmans, min al-muqarrabin, c'est-à-dire des rapprochés. Donc ce qu'il faut dire en premier temps, c'est véritablement la bénédiction qu'il y a dans ce mois, la compréhension de cette spiritualité. Et puis, surtout quand on vit en Europe, comprendre deux choses. Il ne peut s'agir pour nous simplement d'appliquer la règle du principe de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas avoir de relations sexuelles pendant la journée. Non, il faut plus que cela. Il faut effectivement que dans notre vie quotidienne, quelque chose change. Que finalement, nous comprenions bien que tout ce dont nous nous privons doit nous amener à quelque chose de particulier, un état de cœur, un état de conscience, un état d'être qui cherche la spiritualité, qui organise différemment sa journée, qui organise différemment son temps, qui ne jeûne pas en ne changeant rien à la façon dont elle va vivre avec les autres, vivre avec la télévision, vivre avec la négligence, vivre avec l'oubli. Non, c'est se priver pour se souvenir. Et donc ça demande une spiritualité personnelle, véritablement importante à approfondir quotidiennement. Alors ceci, Allah subhanahu wa ta'ala, nous le verrons tout à l'heure, il nous en a donné les moyens, et en particulier dans le rapprochement avec le Coran, avec la révélation, dans l'accomplissement plus important et pendant un mois de cette prière, et surtout de comprendre que s'il y a privation la journée, ce n'est pas pour qu'il y ait oubli la nuit. Alors certains, quand vient le moment de couper le jeûne, mangent comme trois, alors qu'ils n'ont pas mangé comme un pendant la journée. Et ce n'est pas du tout le but. C'est véritablement manger juste ce qu'il faut pour rester à l'état d'éveil et non pas de s'endormir de fatigue tellement on a mangé après s'en être privé. Parce qu'alors on a évité, on a finalement échoué dans le but que l'on s'était d'abord prescrit et que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. De la même façon, il ne peut s'agir également de passer son temps la nuit à faire n'importe quoi, soit devant la télévision, soit devant et avec des êtres pour passer le temps la nuit à mieux dormir le jour. Le jeûne n'est pas le renversement de la nuit au jour uniquement pour dormir la journée et vivre la nuit. Non, c'est de rester éveillé le jour pour vivre plus profondément de sa spiritualité. Parce que ce qui est étonnant et troublant dans l'être humain, c'est qu'il peut vivre éveillé avec une spiritualité qui dort. La seule chose qui lui est demandée pendant Ramadan, elle est très très profonde, c'est de vivre la journée avec une spiritualité en éveil. Parce que c'est cela finalement le secret de notre être. Être apparemment éveillé, intimement endormi. Le Ramadan, le jeûne, le rapprochement avec Dieu, c'est d'être apparemment éveillé pour être intimement lucide et proche de Dieu. C'est de réveiller ce qui dort en nous quand tout donne l'apparence que nous sommes éveillés devant les êtres. C'est ce cheminement qu'il faut aborder et qu'il faut aborder avec beaucoup de profondeur. Ça demande beaucoup d'exigence pendant un mois de spiritualité. Alors, en même temps, il y a tout le pardon dans ce jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaq alayh. Ce hadith, que dit-il? Qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et avec persévérance, Dieu lui pardonne tous les péchés qu'il a commis auparavant. C'est donc un mois également de purification et un mois qui efface. Il approfondit et il efface. Et plus il approfondit, plus il a effectivement effacé. Donc plus notre conscience est dans le rapprochement spirituel avec Dieu, plus effectivement il pardonnera ce que nous avons fait dans la négligence, tellement nous donnons d'efforts à l'éviter, cette négligence. Voilà cette première introduction, elle est importante parce que trop de musulmanes et de musulmans s'arrêtent à la lettre de la prescription et de la loi et on oublie l'esprit et on oublie l'attitude et on oublie effectivement tout ce qui pour nous doit faire en tant que musulmanes et en tant que musulmans, que nous devenions vraiment les témoins de notre spiritualité. Et ce devrait être vrai en Europe plus qu'ailleurs encore. À l'heure où nous vivons dans une société de consommation, dans une société de la productivité, du toujours plus savoir sans savoir très bien ce que l'on est, eh bien, la communauté musulmane, les croyantes et les croyants devraient être là pour témoigner qu'à l'heure où le monde est pris par le vertige de la consommation, une communauté musulmane s'impose, la profondeur de la méditation, la profondeur de l'arrêt, la profondeur de s'arrêter un peu pour mieux voir qui l'on est quand tout nous ferait perdre à essayer de compter ce que l'on a et uniquement ce que l'on a. Première démarche pour chacun d'entre nous et pour chacune d'entre nous. Donc, la prescription du mois du Ramadan est claire dans le Coran. Le verset que j'ai lu tout à l'heure met ceci en évidence. « Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum » Alors, il vous a été prescrit de jeûner comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Vient immédiatement, dans ce qui concerne les prescriptions, ce qu'on appelle arkan siyam, c'est-à-dire les piliers, ou shurut également, les conditions. Et elles sont au nombre de deux. La première, c'est niyya, l'intention. Innamal a'malu bin niyyat, les actes sont par les intentions. Et donc ici, nous devons savoir, par rapport au jeûne, que, et au jeûne du Ramadan, que l'intention de jeûner est nécessaire. Alors les savants mettent en évidence que pour le mois du Ramadan, on peut avoir l'intention au début du mois du Ramadan, et que celle-ci suffit, et l'intention n'est pas forcément formulée verbalement, elle peut l'être de cœur, celle-ci suffit pour l'ensemble du mois. D'autres savants mettent en évidence qu'il est préférable, et voire nécessaire pour certains, de la renouveler chaque soir avant le Fajr, c'est-à-dire avant la rupture de la journée. À part pour l'école hanafite, qui pour elle, on peut même en avoir l'intention, même pour le mois du Ramadan, pendant la journée qui suit. Donc, la majorité des savants mettent en évidence, justement, cette intention doit être présente, en tout cas, de façon claire, au début du mois, et renouvelée, si possible, même si cela n'est pas fait, ça ne coupe pas le jeûne, chaque soir avant le jeûne qui précède. Mais ce n'est pas l'avis de tous les savants, donc une intention de s'engager dans le mois du Ramadan est bonne. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour tout ce qui s'appelle Saum Tatawwu, c'est-à-dire le jeûne volontaire, ou, selon les savants, sur la base d'un hadith du prophète Aïssatou Salam rapporté par Aïcha, quand le prophète Aïssatou Salam une fois est venu chez elle et lui a demandé si quelque chose, il y avait quelque chose à manger, il lui avait répondu que non, il lui a dit je vais jeûner. Donc, pour ce qui est volontaire, donc en dehors du mois du Ramadan, un jeûne que l'on ferait ou que l'on aurait envie de faire en dehors de la prescription obligatoire, eh bien, pendant la journée, on peut tout à coup avoir l'intention de jeûner si le matin on s'est réveillé sans avoir mangé ni rompu le jeûne ou fait quelque chose qui aurait pu rompre le jeûne. Le deuxième élément, c'est l'abstinence du lever. Donc, minel fajr, c'est-à-dire une heure et quart avant le lever du soleil, jusqu'au coucher, jusqu'au marré, de manger, de boire et de relations sexuelles. Voilà les deux piliers qui sont fondamentaux dans le fait de les conditions nécessaires à ce qu'un jeûne soit agréé. La deuxième chose qu'il faut mettre en évidence, c'est qui doit jeûner. Ceux qui doivent jeûner, c'est d'abord les musulmans, les musulmans, celui qui reconnaît l'islam comme étant sa religion. La deuxième des choses, il doit, ce qu'on appelle être taklif, c'est-à-dire atteint l'âge de la puberté, même si dans les familles, c'est une bonne chose que des enfants, en faisant très attention à leur fatigue pour ne pas trop en rajouter, mais c'est une bonne chose que des enfants puissent jeûner, mais ils sont astreint aux jeunes à partir de l'âge de puberté, c'est-à-dire à partir de l'âge de raison, 12, 13, 14 ans selon les enfants, mais c'est aux alentours justement de 13, 14 ans que les choses deviennent obligatoires et que justement à partir de ce moment-là, un enfant est considéré comme ayant à rendre par des actes témoignage de sa religion. Donc ceci est une chose importante. Pour les enfants qui le font dans l'ambiance familiale et qui désirent le faire, bien entendu, cela est permis. Mais j'insiste beaucoup sur le fait de faire attention qu'il s'agit toujours de préserver leur santé, de ne pas trop appuyer et de ne pas, justement, comme certains le font, être fier que l'enfant jeûne et on ne s'aperçoit plus de sa fatigue. Parfois, il faut même forcer à ce qu'il ne jeûne pas s'il est dans une situation où il a trop jeûné, où il est fatigué. Et là, le jeûne est contre-productif. Il faut penser à la santé des enfants. Raison pour laquelle, d'ailleurs, le jeûne n'est pas une prescription obligatoire aussi dans le jeune âge. C'est parce que, justement, les enfants nécessitent du repos de ce point de vue-là. Et puis, ce qui est également important, qu'on met en évidence, c'est le fait d'être résident, c'est-à-dire de ne pas être en voyage. Et on verra que dans ceux qui peuvent ne pas jeûner, il y a le fait d'être résident. Et dans le fait d'être résident aussi, parmi les conditions, c'est toute personne qui peut supporter le jeûne. Donc la capacité de pouvoir supporter le jeûne. On pourra mettre ceci comme étant la troisième condition. Donc on aurait 1. Le fait d'être musulman. 2. Le fait d'atteindre l'âge de raison. Et 3. Le fait de pouvoir supporter le jeûne. Et quand on dit supporter, c'est parce que, par exemple, dans une situation de voyage, il peut y avoir de la fatigue. Quand on est malade, quand on est âgé, on verra que ceux qui peuvent ne pas jeûner sont ceux qui, justement, ne répondent pas forcément à cette dernière condition, à savoir pouvoir supporter le jeûne dans les circonstances qui sont spécifiques à leur situation. Voilà donc les trois conditions nécessaires à qui doit jeûner. Maintenant, on peut maintenant passer à l'autre chapitre qui va nous entraîner à considérer quelles sont les personnes qui justement peuvent ne pas jeûner, ou doivent parfois ne pas jeûner justement. La première catégorie, ce sont les personnes âgées, les vieux, hommes et femmes, qui, à cause de leur âge, ne peuvent pas jeûner parce que le jeûne serait perturberait leur santé ou pourrait avoir des conséquences graves, et dont en plus il est certain qu'ils ne pourront pas le rattraper, ce jeûne, parce que ils sont au terme de leur vie et donc il n'y a pas un moment où leur santé le leur permettra. Donc dans cette situation là ces personnes doivent nourrir un pauvre équivalent à chaque jour qu'ils n'auront pas jeûné, qui s'appelle le fidya, et ceci fait référence aussi, relativement, certains savants reprennent le terme, bien entendu, de ce qui est dit dans le Coran, wa alalladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, à ceux qui ne peuvent pas le supporter, eh bien, le fait de donner une compensation, le repas d'une personne dans la nécessité. Donc, dans cette perspective-là, on aura effectivement la nécessité de devoir faire ceci. Ce sera le cas également pour le malade ou la personne qui est atteinte de maladie. Quand celle-ci se trouve dans une situation où la maladie, il apparaît évident qu'elle ne sera pas guérie et que c'est une longue maladie qui va nécessiter l'impossibilité en fait pour la personne en question de devoir faire ce jeûne. Alors si elle est malade avec impossibilité ou non prévision de guérison, elle également devra donner à manger à une personne dans la nécessité. Pour ceux qui sont malades et puis qu'ils sont dans cette situation, c'est une maladie temporaire, ils n'ont pas à jeûner parce que justement la situation n'est pas une nécessité ici, parce que c'est aussi là quelque chose qui est prescrit et qui est mis dans le Coran. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage, alors il devra compenser par le nombre de jours identiques. Alors que se passe-t-il? Pour la personne qui est malade et qui va recouvrer plus tard la santé, elle rattrapera les jours de jeûne, comme il est dit dans le Coran ici. Pour la personne en voyage, comme il est dit de la même façon, eh bien, elle rattrapera les jours en voyage. Les jours qu'elle a passé en voyage, elle les rattrapera plus tard. Ce qu'on doit mettre également en évidence, et c'est une situation également pour une personne qui est dans sa période de, pour une femme qui est dans sa période d'indisposition. Eh bien, elle ne jeûnera pas dans sa période d'indisposition, comme dans une période post-accouchement, elle ne jeûnera pas, mais elle rattrapera après coup. Le jeûne qu'elle n'a pas pu faire. Il y a également, dans cette situation, la femme enceinte. Alors, la femme enceinte, ici, peut être dans une situation où elle ne jeûnera pas. Alors, il y a, en général, deux attitudes que les savants ont retenues. Elle doit, par exemple, chez Ibn Abbas, radiallahu anhu, ou dans l'école hanafite, elle doit rattraper simplement les jours qu'elle n'a pas jeûné, mais elle ne doit pas donner de nourriture aux pauvres, si elle est dans une situation d'être enceinte. Par contre, chez l'école Hanbalite et l'école Shafi'ite, elle doit rattraper les jours seulement si elle ne jeûne pas à cause de sa santé à elle. Mais si c'est à cause de par peur pour l'enfant, alors elle doit rattraper les jours de jeûne et quand même donner El-fidya, c'est-à-dire donner à se nourrir, au, à donner à nour, la nourriture aux pauvres. Donc on retiendra une chose, c'est que chez les savants, il y a une petite divergence ici, en fonction de la cause qui coupe le jeûne de la personne enceinte. Si c'est pour elle-même, eh bien elle rattrape uniquement parce qu'elle est considérée comme si elle était malade, en l'occurrence, ou comme si elle était dans une situation qui toucherait sa santé à elle. Mais si c'est pour la santé de son enfant, d'autres disent, oui, alors là, elle doit rattraper, mais en même temps, elle doit donner aux pauvres parce que c'est une un autre type de d'écueil auquel elle fait face. Notons simplement pour résumer qu'une femme qui est enceinte et qui déciderait de rattraper le jeûne serait reconnue du point de vue islamique et du point de vue des écoles dont nous avons parlé, et une femme qui voudrait en plus donner la nourriture aux pauvres pourrait le faire. Bien, donc de ce point de vue-là, nous avons la reconnaissance de ceux qui peuvent ne pas jeûner. Alors, qu'est-ce que l'on retiendra également par rapport à cela? L'on retiendra par rapport à cela qu'il faut donc rattraper. Et que se disent les savants sur le fait de rattraper? Alors, tout le monde met en évidence, les savants mettent en évidence que, évidemment, le mieux, c'est pouvoir le rattraper à la suite du jeûne du Ramadan, mais pas, bien entendu, le plus rapidement possible, avec l'afdal, c'est-à-dire le meilleur, ce serait de rattraper les jours qu'on n'a pas jeûné à la suite l'un de l'autre, parce que ça nous remet plus justement dans la situation que ce que nous avons manqué. Cela étant, ce que l'on reconnaît, ce que disent les savants, c'est que ceci n'est pas une obligation. On peut rattraper le jeûne dans toute l'année qui nous sépare du prochain Ramadan, et non pas dans le, on, nous ne sommes pas dans l'obligation de jeûner tous les jours les uns à la suite des autres. Donc on peut jeûner de façon éparpillée dans l'année. Et donc dans cette perspective-là, on a une année pour rattraper les jours de jeûne que l'on n'a pas pu faire parce qu'on était malade, parce qu'on était en voyage, ou parce qu'on était enceinte, ou parce qu'on était en période d'indisposition, ou dans une situation de post-accouchement. Donc, de ce point de vue-là, la marge est importante. Ce que disent également un certain nombre de savants, c'est que si une personne a finalement laissé passer l'année complète et se retrouve après l'autre jeûne du Ramadan, elle n'a toujours pas rattrapé. Alors, si elle avait des excuses parce que la situation a été difficile, elle avait des excuses, donc elle fera le Ramadan suivant, puis après le Ramadan, elle continuera à rattraper ce qu'elle avait en retard. Mais si elle n'a pas rattrapé, simplement par paresse, alors, disent les savants, elle passera l'autre année, elle rattrapera le jeûne, mais elle donnera en plus de la nourriture aux pauvres par jour de jeûne qui n'a pas été rattrapé. Voilà pour ceux qui, de ce point de vue-là, peuvent ne pas jeûner. Et donc on retiendra cette dimension du rattrapage également. Ce que nous devons retenir également par rapport au jeûne et qui paraît très très important dans l'ensemble de notre façon d'aborder ce mois, c'est ce qu'on appelle adab al-siyam, c'est-à-dire les règles d'éthique, de morale, de bonne conduite et de comportement qui sont liées à ce jeûne, c'est-à-dire finalement une discipline personnelle qui accompagne ce jeûne et qui accompagne notre façon d'être dans le jeûne. Alors la première des choses qu'il faut mettre en évidence, c'est que le prophète a.s.w. avait insisté sur le fait de se lever la nuit pour manger juste avant Salat al-Fajr. Et là, c'est une chose très très importante. Le prophète a.s.w. avait dit « Tasahharu fa inna fi s-suhuri baraka ». Levez-vous le matin pour manger, parce qu'il y a dans ce moment-là, dans ce repas-là, une miséricorde, une bénédiction. Et ça, c'est un hadith qui est authentique, muttafaq alayh, c'est-à-dire que les deux textes d'authentique, al-Bukhari ou muslim, reconnaissent. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pour nous, ce qui est important, c'est effectivement, alors ce peut être une date, ce peut être un verre d'eau, mais ce moment-là, il faut qu'on y fasse attention. Et en particulier quand on vit en Europe, pour nous, c'est un moment important, c'est un moment béni où on se réveille avant la prière, où on mange ensemble, c'est un moment de la famille qui se retrouve, il y a une bénédiction, on mange ensemble, puis ensuite on se prépare à la prière, puis on prie ensemble, salat al-sobh. Ça, il faut le préserver, parce que c'est un moment de spiritualité aussi, de lutte contre le sommeil, parce qu'on lutte contre le sommeil pour se réveiller. Et il en est certain qui reste très éveillé très très tard, qui mange après avoir regardé n'importe quoi à la télévision ou fait n'importe quoi, qui mange vers 1h et 2h, qui ne se réveille pas et qui laisse même la prière et qui ne prie que quand il se réveille, en plus pendant le mois du Ramadan. Là, ça ne correspond pas à ce que le prophète ﷺ nous a indiqué comme étant une des choses importantes. Tasahharu, c'est-à-dire, levez-vous, faites ce moment-là préserver ce moment-là qui est le moment de ce repas de la nuit. La deuxième des choses, c'est effectivement une chose importante pour nous, où le prophète ﷺ a insisté sur l'accélération de la rupture du jeûne. C'est-à-dire que quand vient le moment du Maghrib, il faut effectivement essayer de la couper, de couper ce jeûne très très rapidement. Pourquoi ? Pour être aussi là, de ce point de vue-là, dans une espèce de lucidité par rapport à ce moment du Maghrib, qui est très très important, où Jibril, alayhi salam, quand il a montré à quel moment était la prière pour le prophète, alayhi salam, est venu deux fois au même moment pendant le Maghrib. C'est-à-dire vraiment, c'est important ce moment-là. Et donc, le prophète, alayhi salam, nous a prescrit de couper très très vite. Et il avait dit ceci, « La yazalu an-nasu bi khayrin ma ajjilu al-fitr ». C'est-à-dire, les êtres humains seront toujours dans le bien tant qu'ils accéléreront le fait de couper le moment le moment où l'on coupe le jeûne. Donc, il y a ici une chose très très importante qu'il faut préserver. Le prophète ﷺ avait dit ceci, إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيَفْتَرْ عَلَى تَمْرٍ. C'est-à-dire, si quelqu'un d'entre vous est jeune, eh bien qu'il coupe son jeûne avec une date. Fa'il lam yajid, s'il ne trouve pas tamr, la date, fa'al al-ma', qu'il utilise de l'eau, fa'in al-ma'a tahour, c'est-à-dire que l'eau est pure. Et donc, ici, on se presse, on se précipite, on coupe le jeûne, une date, c'est une bonne chose selon la tradition du prophète, de l'eau ou quoi que ce soit, et puis juste de quoi couper le jeûne pour bien marquer le moment où on s'est précipité pour couper ce jeûne, et puis ensuite on pourra prier en essayant d'éviter d'avoir le repas immédiatement et de faire la prière après pour préserver tous ces éléments de notre spiritualité. Et finalement, de quoi s'aperçoit-on ? C'est que les deux parenthèses du jeûne sont la prière. Celle du matin, on finit de manger et on prie le matin, où on accueille cette journée de jeûne, en étant avec les anges qui témoignent de notre lever. Et puis, le soir, on coupe le jeûne, et puis on prie immédiatement après. Puis ensuite, on se donne le temps de manger plus simplement, avec plus de temps devant nous. Mais là, c'est une chose qui est une chose très très importante pour nous, de préserver ces deux éléments-là. Il faut ajouter également ce que le prophète, alayhi salam, avait ajouté et dit par rapport à le fait de couper le jeûne, c'est que ce moment-là est également privilégié pour autre chose. Le prophète, alayhi salam, avait dit « Inna lissa'im inda al-fitr da'watan la turad » C'est-à-dire, il y a pour celui qui coupe le jeûne, un moment d'évocation qui ne sera jamais, qui ne sera pas rejeté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala exaucera celui ou celle qui, au moment de jeûner, invoquera Dieu. Alors on sait que le prophète alayhi salam disait en permanence « Dhahaba dhamu wa tallat al-uruq wa thabat al-ajru insha Allah ta'ala » Il disait ceci, la soif est partie, les veines, ou plus précisément tout ceci s'est humidifié, tout ce qui concerne ce par quoi nous mangeons et buvons, et puis la récompense a été confirmée, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, le Très-Haut. Donc le prophète al-Salam faisait cette invocation, et nous, ce qui nous est dit, c'est de la dire pour ceux qui peuvent l'apprendre et qui devraient pouvoir l'apprendre, mais en plus de ceci, de pouvoir ajouter d'autres types d'invocations. Et ce dont on doit se souvenir, effectivement, c'est une chose qui reste pour nous importante, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle en arabe, mais cela n'a ne nous interdit pas, pour ceux qui parlent français ou pour ceux qui parlent toute autre langue, de parler à Allah SWT à ce moment-là et de faire des invocations qui seront, inshallah, entendues. Il comprend toutes les langues, il comprend même le silence qu'il l'appelle, il comprend même ce que dit notre cœur et que notre bouche ne prononce pas. Il faut à ce moment-là demander à Allah SWT, au moment du jeûne, avoir une pensée particulière pour ce moment-là. Ça, c'est un élément important. L'autre élément, donc, suhoor, avant de jeûner, accélérer le moment de la rupture, faire les invocations, et on ajoutera également qu'il faut cesser de faire tout ce qui contredit d'une certaine façon le jeûne. Et là, de ce point de vue-là, c'est très important de faire en sorte de se souvenir que on doit avoir un comportement qui est en particulier un comportement maîtrisé pendant ce mois-là. Et donc, ce sera d'arrêter tout ce qui concerne et tout ce qui est à l'encontre du jeûne. Le prophète ﷺ avait dit « Laïsa siyamu min al-akli wa sharb » Le jeûne n'est pas simplement le repas et le fait de manger. « Innama siyamu min al-lagwi wa al-rafath » C'est-à-dire que le jeûne est également la préservation, le fait de s'arrêter, de dire des choses futiles et de dire des moqueries ou des futilités graves de ce point de vue-là. Fa in sabak ahadun, si quelqu'un t'insulte, si quelqu'un te a un comportement avec toi qui est un comportement négatif, ou jahala alayk, c'est-à-dire t'ignore ou t'agresse d'une certaine façon, faqul inni sa'imun, inni sa'imun. Dis de ce point de vue-là que tu es effectivement en état de jeûne. Donc le prophète sallam nous dit ceci, ce hadith très très important. Le jeûne n'est pas simplement, n'est pas uniquement dans le fait de manger et dans le fait de boire, il est dans le fait d'éviter les futilités, les propos malvenus et malveillants. Et si quelqu'un t'agresse ou si quelqu'un a avec toi un comportement qui est négatif de ce point de vue-là, eh ben réponds, dis-lui inni sa'imun, je jeûne, je suis de ceux qui jeûnent. Et donc, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est, pour nous, très très important, de comprendre que tout le jeûne est lié à un comportement spécifique, c'est-à-dire à un comportement où on maîtrise sa langue, où si quelqu'un t'agresse, tu ne lui réponds pas par l'agression, tu lui réponds tout ce qu'il faut de ce point de vue-là, montrer, manifester, témoigner. Le jeûne change l'être, et quand l'être change, sa façon de se comporter doit changer en langue, en action, en attitude générale par rapport à l'ensemble des êtres humains qui sont autour de nous. On retiendra également que le prophète alayhi salam disait et insistait beaucoup pendant ce mois sur l'utilisation du siwak, c'est-à-dire le fait de se laver les dents. Alors donc ça aussi c'est un mois où on fera très attention à avoir une hygiène finalement, parce que c'est ça que cela veut dire, une hygiène. Et donc on retiendra pour nous le fait de se nettoyer les dents. Alors, pour ceux qui n'ont pas de siwak et pour ceux qui ne s'en ont pas procuré, on gardera l'idée de se laver les dents le matin après avoir mangé, au moment de la prière, en se préparant à la prière, de se laver les dents, d'avoir une hygiène de vie. Donc on ajoutera en plus, vous voyez, le comportement que l'on a par rapport à son environnement qui doit changer et l'hygiène qui doit se confirmer d'un point de vue personnel. Vient également des choses qui sont alors là du type de la spiritualité. Shahru Ramadan, on l'a dit, c'est le mois du Coran. Et donc, là, il faut, de ce point de vue-là, lire et lire en permanence le Coran. Alors, ce qui est une bonne chose, c'est d'essayer, en tout cas, de le lire une fois. En arabe, c'est préférable. Si cela n'est pas possible dans sa langue, c'est-à-dire en français ou dans une toute autre langue, une fois pendant le mois. Ça veut dire, par exemple, de lire un trentième par jour et de méditer sur ce qu'on dit. Ça, pas simplement en faire une question de quantité. J'ai lu le Coran une fois sans forcément l'avoir compris, mais le lire et de se donner un moment. Ça veut dire quoi? De se donner un moment par jour, c'est-à-dire d'essayer, effectivement, pour répondre à cette attitude où on est avec le Coran, où on l'écoute, où on l'a dans sa demeure, où sa vie est liée à ce texte, parce que c'est le mois dans lequel il est descendu, eh bien, d'essayer de faire en sorte de pouvoir méditer sur ce qui nous est dit. Et c'est un mois très important. Alors, bien sûr, il y a Salat al-Tarawih, c'est-à-dire l'autre élément qui va venir s'ajouter à cette spiritualité-là, à savoir le fait de Qiyam, comme le prophète sallam il a dit man sama ramadan, mais il a dit également man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, c'est-à-dire qui s'est levé pendant ramadan et a fait cette prière de laquelle de tarawih ici aussi en plus de la prière de la nuit qu'il pourra ajouter, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner ce qu'il a fait dans le passé et ce qu'il fera dans le futur. Donc on retiendra également cette double dimension de spiritualité. Et c'est là finalement que c'est la marque distinctive de la croyante et du croyant, de la musulmane et du musulman, de celui qui veut témoigner de sa foi. Il ne se prive pas simplement de manger et de boire, mais il approfondit sa vie spirituelle avec le Coran et avec la prière. Et ça c'est important. Pourquoi ? Parce que ce qui est important pour nous, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, au XIIe siècle, avait écrit sur le jeûne. Et il avait mis en évidence quelque chose de très très important. C'est vrai qu'il avait distingué trois types de jeûne. Il avait dit le jeûne du corps, le jeûne des membres, des organes, et puis le jeûne du cœur. Et il a dit, à chacun, il y a un degré. Alors, ne pas boire et ne pas manger, c'est le jeûne inférieur. Mais il y a un jeûne du fait de ne pas parler mal, ce qu'on a vu tout à l'heure dans Adab al-Siyam, c'est-à-dire le fait al-Rafath wal-Laro, c'est-à-dire vraiment de dire de parler pour ne rien dire. Donc, de retenir, de mesurer ces mots comme on mesure dans la journée le fait de ne pas manger. Et puis ensuite il y a le jeûne du cœur, c'est-à-dire d'essayer de faire sortir de soi toute cette dimension négative, agressive ou parfois négligente que l'on peut avoir par rapport à notre religion. Donc dans cette perspective-là, il y a plusieurs niveaux. Et ce niveau-là, il faut tâcher de l'atteindre. Et pour l'atteindre, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne, comme le prophète alayhissalam nous l'a montré, des repères. Ces repères, c'est effectivement la rupture dans ce que l'on mange, mais c'est également la transformation dans ce que l'on dit, et c'est dans la profondeur de ce que l'on est. Voilà les trois dimensions qui nous permettront d'atteindre au jeûne du cœur, d'atteindre véritablement en plus des prescriptions. Et c'est ça qui est finalement très 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 important pour nous. C'est ça finalement qui vraiment doit rester pour nous une dimension de fond. C'est pas le jeûne du Ramadan, c'est pas simplement d'appliquer des prescriptions et de s'en tenir simplement à la lettre de ces prescriptions. Ces prescriptions, ce sont des limites, et à l'intérieur des limites, il y a notre profondeur. Attention à ne pas faire de ce que l'on doit faire simplement le respect de limites, mais de bien comprendre que ces limites sont l'orientation du chemin de la profondeur pour nous, du chemin du mieux-être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deux autres chapitres sont importants parce qu'ils vont nous rappeler ce qui est permis et ce qui n'est pas permis pendant le jeûne. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'est-ce qui fait que le jeûne peut être interrompu si on le fait et qu'est-ce qui fait qui est permis sans que le jeûne soit interrompu. Alors prenons d'abord ce qui est permis. La première des choses, c'est parce que le prophète, il nous est rapporté par Aïcha, qu'il a pris des douches, et que soit parce qu'il avait chaud, soit même par rapport à la soif, il a pris des douches sans boire, bien entendu, on faisait attention à cela. Donc le bain, la douche, est permis pendant le mois du Ramadan, avec cette condition de faire très très attention à ce que ça ne passe pas par les voies de la nourriture, en l'occurrence. Ça, c'est une chose importante. Le fait d'embrasser ses enfants ou son épouse ou son mari ne coupe pas le jeûne, puisque le prophète sallam l'a fait et on l'a vu faire. Et de même, il y a le hadith où Omar radiallahu anhu vient dire au prophète sallam qu'il a jeûné de ce point de vue, qu'il a embrassé pendant le mois du jeûne. Et le prophète sallam lui a posé la question de savoir, est-ce que si tu as quelque chose de l'eau dans la bouche et puis que tu te rinces la bouche, est-ce que ça veut dire que ça coupe ton est-ce que tu vois du mal là-dedans? Il lui a dit non, il dit il en est de même par rapport au baiser, donc au fait d'embrasser. La piqûre, la piqûre, quand il s'agit d'une piqûre qui n'est pas une piqûre de nourriture, du glucose, ou quand c'est une piqûre simplement un médicament, de ce point de vue-là, ça ne coupe pas le jeûne. Seul l'imam al-Shafi'i, lui, y voit quelque chose qui coupe le jeûne, parce que c'est quelque chose qui pénètre dans le corps. Alors que les autres savants retiennent, pour ce qui coupe le jeûne, deux choses. Quand il s'agit de nourriture, ou quand cela passe par les deux voies, ou la voie en fait qui amène à l'estomac, que ce soit par le nez ou par la bouche, bien entendu. Là, il voit quelque chose qui pourrait perturber ou annuler le jeûne. Mais par ailleurs, quand il s'agit d'une piqûre, eh bien, ça ne coupe pas le jeûne. Donc, de ce point de vue-là, une piqûre qui est un médicament ne le met pas à mal. Cinquième chose maintenant, c'est le fait, par exemple, de se rincer ou d'aspirer la bouche. Pourquoi le prophète A.S. avait mis en évidence et avait dit de renifler pendant que l'on faisait les ablutions, et il avait ajouté si vous reniflez, donc faites-le abondamment, sauf si vous jeûnez. Et à partir de ce hadith du prophète A.S., qu'est-ce que l'on retient? On le retient donc qu'il est possible de le faire pendant le jeûne, mais avec la condition d'être très très prudent pour que ça ne passe pas jusqu'à l'estomac. Donc on peut c'est-à-dire mettre de l'eau dans sa bouche et rejeter cette eau, faire attention à renifler avec le nez quand on fait les ablutions sans le faire de façon trop importante pour se prémunir de quelque chose qui pourrait aller dans l'estomac. Donc c'est une chose qui est possible, et cette chose qui est possible est permise, bien entendu, pendant le mois du jeûne, tel qu'il est rapporté ici par le prophète A.S. On retiendra également, maintenant dans l'autre chapitre, qu'est-ce qui annule le jeûne? Eh bien, ce qui annule le jeûne, c'est premièrement de manger et de boire intentionnellement. Alors, intentionnellement, au sens où on coupe le jeûne en sachant que l'on jeûne. Par contre, justement, quand il ne s'agit pas d'une mesure intentionnelle, c'est-à-dire que la personne a oublié. Le prophète A.S. a dit ceci: إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبْ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَى. Si quelqu'un d'entre vous a oublié qu'il jeûnait et qu'il a bu ou mangé, eh bien qu'il continue son jeûne, car alors c'est Dieu qui l'a fait, qui lui a donné à manger et qui lui a donné à boire. Donc il y a cette idée que si on n'est pas conscient de ce que l'on fait, qu'on est un oubli, eh bien il faut continuer son jeûne et ne pas considérer que celui-ci a été coupé, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, de ce point de vue-là, qui nous a fait oublier. La deuxième des choses, c'est de vomir intentionnellement, parce que là aussi, quand on vomit et que ce n'est pas intentionnel, on continue de jeûner, mais ce qu'on appelle qay amdan, eh bien ici, c'est le fait de vomir intentionnellement, eh bien ça coupe le jeûne. Ce qui coupe également le jeûne, bien entendu, c'est la période d'indisposition ou l'accouchement, de la même façon que tout ce qui concerne pour l'éjaculation volontaire, au sens où si c'est quelque chose qui vient parce que l'on a vu quelque chose et comme ça peut arriver de façon involontaire, et bien de ce point de vue-là, ça ne coupe pas le jeûne. Il faudra refaire les ablutions par rapport à la prière. Il faut, de ce point de vue-là, se prémunir et faire ce qu'il faut pour se purifier rituellement. L'autre chose, bien entendu, c'est quand on a l'intention de l'annuler, ce jeûne, dès que l'intention d'annuler le jeûne apparaît, puis que même si ça n'est pas fait physiquement, mais que l'intention est claire dans le cœur, eh bien ceci coupe le jeûne. Ce qui le coupe également, c'est le fait de l'acte sexuel pendant la journée, et celui-ci annule le jeûne et en plus demande une expiation, kafara, c'est-à-dire le fait de devoir rendre expier la faute que l'on a faite, et ceci c'est sur la base d'un homme qui était venu voir le prophète A.S. et qui lui avait dit qu'il avait eu une relation avec son épouse pendant Ramadan, et on connaît l'histoire. Le prophète A.S. lui avait posé la question: est-ce que tu peux libérer un esclave? Il a dit: non, je ne peux pas. Est-ce que tu peux jeûner 2 mois de suite? Il a dit: non, je ne peux pas. Est-ce que tu peux donner à manger à 60 pauvres? Il dit: non, je peux pas. Le prophète A.S. avait fait venir un plat de dattes et lui avait dit: tiens, prends ceci et va le distribuer aux pauvres. Et l'autre avait répondu: mais je ne vois pas parmi dans le lieu où je me trouve quelqu'un qui soit plus pauvre que moi et qui en ait plus besoin que moi et ma famille. Et le prophète A.S. a souri et lui a dit: bah tiens, donne cela à ta famille. On connaît ce hadith du prophète A.S. qui était particulièrement célèbre, mais ce qui nous est indiqué ici, c'est que non seulement il devra refaire le jeûne, mais là il doit, dans cette situation-là, devoir donner une expiation. Et dans l'ordre, c'est libérer un esclave dans une situation où il y en aurait. Dans notre situation aujourd'hui, c'est jeûner 2 mois de suite ou donner à manger à 60 pauvres, si une raison particulière fait que nous ne pouvons pas jeûner 2 mois. Voilà pour ce qui concerne l'annulation du jeûne. On retiendra également 2 petites choses de ce point de vue-là qui sont particulièrement importantes pour nous. C'est qu'il est possible, en l'occurrence, d'accomplir le jeûne à la place de la personne qui est décédée, sur la base du hadith du prophète qui a dit celui qui meurt et qui a des jours de jeûne à rattraper, ben celui qui est son garant, eh bien, ça peut être son fils, ça peut être quelqu'un de sa famille, peut jeûner pour lui ce qu'il y a de ce point de vue-là à rattraper. Donc certains ont dit qu'ils peuvent donner de la nourriture aux pauvres, mais il est bon pour ceux qui ont un parent qui est décédé en ayant des jours de jeûne à rattraper, de pouvoir les jeûner. On aura une attention particulière pendant ce mois du jeûne sur, effectivement, Laylatul Qadr, c'est-à-dire cette nuit qui est dans les chiffres impairs, dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, et donc le 21, le 23, le 25 ou le 27, et dont la majorité des savants retiennent le 27, donc la nuit du 26e jour, qui est la 27e nuit de ce point de vue-là, puisque c'est comme ça que l'on compte en islam. Eh bien ici, il faut particulièrement faire attention à jeûner, à faire des do'as, à rester éveillé, à être avec Allah subhanahu wa ta'ala en essayant dans cette nuit d'être avec cette nuit particulière où les anges descendent au ciel le plus bas, où nos invocations sont entendues. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam avait dit man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, de nouveau la même formule en disant celui qui se lève pour prier pendant laylatal qadr, tous ses péchés disparaissent et sont effacés. Et on sait laylatul qadri khayrun min alf shahr, cette nuit-là est meilleure que 1000 mois, et donc elle demande une attention particulière dans ces 10 derniers jours, en particulier les chiffres impairs. Mais l'on sait également que le prophète sallam pratiquait pendant les 10 derniers jours du Ramadan l'i'tikaf, c'est-à-dire se mettre dans une mosquée, s'isoler et avoir une pratique particulière plus importante pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et donc là aussi pour nous c'est une dimension très très importante dans Adab al-Siyam, c'est-à-dire non pas de commencer avec une forte envie de spiritualité et de finir justement dans la négligence, et ça c'est ce qui arrive chez beaucoup de sœurs et beaucoup de frères dans leur pratique, mais bien entendu de rentrer dans une dimension de progression, et donc toujours de se forcer à bien s'organiser dès le début du mois du Ramadan pour arriver dans ces 10 derniers jours dans une volonté. Bien sûr, il y aura de la fatigue, bien sûr, il y aura de la difficulté, mais si on s'est bien organisé, si on a bien organisé ses lectures de Coran, ses prières, une vie qui est réglée et non pas négligente pendant les 20 premiers jours, eh bien, dans les 10 derniers, on arrive avec une force spirituelle, une envie de pouvoir encore approfondir. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faut justement pas déserter la mosquée, déserter la prière de la nuit et négliger ce qui nous est demandé en lecture du Coran parce qu'on est trop fatigué. C'est au contraire une attitude de progression qui doit nous amener dans les 10 derniers jours à augmenter notre exercice de spiritualité. Et ça, véritablement, il faut mettre en évidence que elle est très 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 importante, cette dernière période de Ramadan. Il faut vraiment encore davantage que tout ce que nous avons dit faire attention à cette spiritualité. Nous ajouterons encore juste 2 choses par rapport au jeûne d'un point de vue général. C'est que le prophète alayhi salam a ajouté beaucoup d'autres moments de jeûne qui ne sont pas obligatoires comme Ramadan, et l'on sait que il y a par exemple le fait de jeûner les 6 jours de Shawwal, donc le mois qui va suivre, comme ça si ça complète les 300 les 36 jours et ça fait multiplié par 10 hasanat, c'est comme si on avait, comme le prophète a dit, ceux qui prient 6 jours de Shawwal, c'est comme s'ils avaient prié en plus du Ramadan l'ensemble de l'année. Il y a le fait de prier les 3 jours par mois, et en particulier le 13e, 14e et 15e jour du mois lunaire, qui sont les jours de pleine lune. Il y a également le lundi et le jeudi, où le prophète alayhi salam disait justement que c'est à ce moment-là que les comptes des hommes sont faits, et qu'il voulait que son compte soit fait de ses bonnes actions au moment où il était en jeûne. et il y a Ashura, qui est également un moment de Shahr al-Muharram, qui est un moment où le prophète alayhi salam jeûnait. Et puis il y a des moments où l'on ne jeûne pas, et en particulier les deux jours de fête, où il est interdit de jeûner. Il est également interdit de jeûner les trois jours de Tashrik, c'est-à-dire les trois jours qui suivent la grande fête, le vendredi tout seul, puisque le prophète alayhi salam avait mis en évidence le fait de ne pas jeûner le vendredi tout seul dans un certain nombre de hadiths, et en particulier à un de ses compagnons, le samedi, parce qu'il faisait attention aussi de faire la distinction avec les autres traditions religieuses pour s'en distinguer en particulier. Et puis, effectivement, donc pas tout seul. Donc si c'est un jour où on est obligé de rattraper, où l'on a un programme de où on rattrape ce qu'on a délaissé, ben oui, ceci est et que c'est un jour obligatoire. Mais comme ceci tout seul, il faut l'éviter. Il faut plutôt mettre deux jours ensemble, le samedi avec le vendredi et le dimanche. En tout cas, en particulier, coupler ces jours-là. Et l'on évitera, bien entendu, de jeûner le jour du doute, c'est-à-dire celui qui est le jour où on ne sait pas si c'est Ramadan, juste avant Shahr al-Ramadan. De ce point de vue-là, il est également il faut éviter de jeûner. Le prophète alayhi salam avait dit celui qui jeûne le jour du doute, eh ben, désobéit à Abul Qasim, c'est-à-dire à lui-même, au prophète alayhi salam. De la même façon que le meilleur des jeûnes est celui qui est un jour oui, un jour non, parce que le prophète alayhi salam avait dit la sam man sam al-abad, c'est-à-dire n'a pas jeûné celui qui jeûne tout le temps. Et donc certains savants ont compris, oui, mais tout le temps, ce serait même jeûner pendant ces jours qui sont interdits, donc on peut jeûner tous les jours sauf ceci. Et d'autres, se référant à ce qu'il avait dit à un des compagnons en lui disant, fais et accomplis le jeûne comme le prophète Daoud alayhi salam, qui jeûnait un jour et couper un autre jour, pour justement mettre en évidence qu'il faut éviter le jeûne continu et faire en sorte que le meilleur des jeûnes, comme le dit le prophète, c'était effectivement ce jeûne, un jour oui, un jour non. Donc là, on a quelque chose qui complète le jeûne par ce jeûne volontaire qui suit d'ailleurs Ramadan immédiatement avec les six jours de Shawwal qu'il est bon de faire et qu'il est important pour les musulmans de maintenir dans leur vie personnelle comme quelque chose qui complète dans un acte volontaire la prescription et l'obligation. Un élément encore, à la fin du jeûne, ce qui est demandé aux musulmans, c'est effectivement de donner ce qui s'appelle zakat al-fitr, c'est-à-dire le don à la fin du jeûne, qui est une aumône, sadaqa, qui est l'ensemble des savants musulmans quelque chose qui est de l'ordre de l'obligation et qui doit juste arriver chez la majorité des savants dans les 1 ou 2 jours avant le fait de avant la fête, avant la prière de la fête. Et certains disent plus on la recule mieux c'est. D'autres savants ont mis en évidence qu'on pouvait la donner dès le début du mois et même chez certains dans tout ce qui est l'année. Pourquoi? Parce que comme chez Abu Hanifa, elle participe de la zakat, donc elle peut se faire dans l'année. Mais ce qui est le mieux, ce qu'on retiendra et qui est l'avis de la majorité des savants, c'est que c'est un don qui doit être donné, qui est appliqué dans le fait de pouvoir faire donner qui est destiné aux pauvres en l'occurrence, et qui est donc la mesure de ce qu'un pauvre peut avoir pour manger. Elle est destinée donc à faire en sorte que pendant la fête, tous les musulmans et toutes les musulmanes et tous les musulmans aient le nécessaire pour vivre, pour fêter ensemble. Donc c'est une démarche communautaire, c'est une vision communautaire. Et à la différence de la zakat, qui est la zakat, le deuxième pilier de l'islam, ici, c'est chaque être, en l'occurrence, qui doit la donner. Elle n'est pas liée à une richesse particulière, elle est liée à l'être lui-même qui, dans l'accomplissement de son jeûne, purifie ce jeûne et purifie cette dimension de ne pas avoir à parler mal, à agir mal, et qui est une orientation fondamentale à continuer la purification pour un don pour les pauvres. Et qui, justement, termine par nous dire une chose qui reste quand même importante, c'est-à-dire autant il est vrai que ce jeûne est le rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala et le rapprochement avec Dieu reste que cette dernière touche qui est le don d'argent pour un pauvre à la fin, nous rajoute cette dimension dont on doit se souvenir en permanence. Le jeûne, c'est la proximité avec Dieu et la communauté des hommes. La communauté au sens où nous devons marquer cette solidarité. Alors, zakat el fitr, c'est effectivement cette dimension qui vient confirmer la dimension de privation que nous avons vécue pour plus de spiritualité et la dimension du don pour plus de fraternité. Et c'est cette dimension-là qui est effectivement très très importante pour nous et que nous devons, dont nous devons nous souvenir. Au terme de l'ensemble de ce cours sur Shahr Ramadan, on retiendra, pour revenir finalement à cette dimension dont nous parlions dans l'introduction, l'idée pour nous d'approfondir notre spiritualité dans la rupture, de nous rapprocher de nos sœurs et de nos frères et de l'humanité finalement par un mois où l'on travaille sur soi, eh bien, se souvenir que Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup mis en évidence, comme le prophète alayhi salam, cette dimension qui est dans le jeûne le rapprochement, dans le jeûne la proximité, dans le jeûne la spiritualité. Le prophète alayhi salam a dit, قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ, Dieu a dit, Dieu le très grand a dit, كُلُّ عَمَلِ بْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامِ, tout ce que fait tous les actes du jeûneur ou du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne. Et que dit-il ? فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, il est à moi et c'est moi qui en donne la récompense. وَالصِّيَامُ جُنَّ, et le jeûne est un bouclier. De quoi donc le jeûne est-il un bouclier ? Il est un bouclier parce qu'il est la protection. Il est la protection spirituelle, il est la protection que la personne qui jeûne va essayer de mettre autour d'elle par cette profondeur de spiritualité, par cette intensité de vouloir être avec Dieu, par cette volonté déterminée d'essayer d'être le plus proche possible dans sa vie quotidienne, de la mémoire contre l'oubli, de la proximité contre l'éloignement, de la fraternité contre la guerre et le conflit. C'est ça le jeûne, c'est ce bouclier de force et d'énergie spirituelle que nous devons chercher et qui est la spiritualité à laquelle nous aspirons tous. Mais celle-ci demande un effort, celle-ci elle demande à chacun d'entre nous, personnellement, dans sa vie quotidienne, d'être aussi discipliné, d'essayer de trouver la voie du salut dans le jeûne, mais non pas simplement dans la privation formelle du boire et du manger et des plaisirs de la vie, mais dans la recherche intense, personnelle, intime, exigeante, dans la nuit, quand tout le monde dort, quand tout le monde n'est pas là, de ce rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour finalement vivre et comprendre, et vraiment s'approcher de ce qui nous est dit, et ce que dans le Coran, le prophète alayhi salam nous a mis en évidence comme étant finalement la récompense des jeûneurs. Le prophète alayhi salam avait dit ici, Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, il y a dans le paradis une porte qui s'appelle ar-rayyan. Et qu'a-t-elle de particulier cette porte ? Yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah. De cette porte entreront qui donc ? Ceux qui jeûnent le jour du jugement dernier. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Il n'y entrera personne d'autre qu'eux. Personne. Yuqalu. Et il leur sera dit, où sont ceux qui jeûnent ? Et ils se lèveront et n'y entrera dans cette porte personne d'autre que. Et quand ils y seront tous entrés, cette porte sera fermée, il n'y entrera plus personne d'autre. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que nous soyons de ceux qui entreront par cette porte. Mais qui entrera par cette porte et que devons-nous comprendre ? Non pas simplement ceux dont on ne retiendra de leur jeûne que le fait de ne pas boire et de ne pas manger. Comme le prophète A.S. l'avait dit, il y en a parmi ceux qui jeûnent dont on ne retiendra que le fait de ne pas boire et de manger. Ce sera leur seule récompense et de s'être privé. Parce qu'ils se privent dans leur corps et sont négligents dans leur cœur. Et que ceux dont on parle ici, ce sont ceux qui se privent dans leur corps pour approfondir la spiritualité de leur cœur. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'être de ceux-ci, d'être de ceux qui effectivement dans leur jeûne, dans leur façon d'être exigeants pendant ce moment-là, de se rapprocher du Coran, de se rapprocher de la prière, et surtout, comme le prophète alayhi sallam, il était dit de lui qu'il n'a jamais, qu'il était très généreux tout le temps, mais qu'il ne fut jamais autant généreux que pendant ce mois, que nous soyons généreux. Généreux dans notre attention à l'égard de nos frères et de nos sœurs et de l'humanité. Généreux à l'égard de notre acte d'adoration quotidien, généreux dans notre écoute, généreux dans notre présence. C'est ceci, je crois, qui même dans notre situation en Europe où certains ont tellement l'impression qu'il est plus difficile de jeûner parce que nous sommes loin d'une atmosphère où tout le monde jeûne, où il y a l'appel à la prière, où l'on sent que le monde change. Eh bien, je crois que nous devons prendre sur nous, en particulier en Europe, cette dimension intime du jeûne, pour faire en sorte que nous en témoignions devant les êtres humains, que nous devenions vraiment la communauté du témoignage qui se prive pour être et qui veut être devant l'être, le Créateur des cieux et de la terre. Rabbus Samawati wal Ard, le Dieu, le Seigneur des cieux et de la terre. Vraiment, ceci est notre responsabilité. Le jeûne, le mois du Ramadan, ne doit pas être le mois de l'enfermement par rapport à la société. Il doit être le moment de l'intimité de notre foi pour le rayonnement dans la société. En d'autres termes, faire exactement le contraire de ce que certains font. Ils s'enferment en apparence et se négligent dans l'intimité, alors que nous devrions nous enfermer au sens d'approfondir notre spiritualité pour rayonner en société. C'est le grand message, finalement, de ce mois de jeûne, pour que nous soyons témoins devant les gens de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme étant une lumière, jeûner pour se rapprocher, jeûner pour témoigner, jeûner pour être au-delà de tout ce que nous avons, pour être devant l'être. Wa jazakumullahu kulli khair, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.